Les personnes âgées de 65 ans et plus verront leur nombre croître au cours des prochaines décennies. Le vieillissement de la population va toucher de façon transversale toutes les couches de notre société. Il faudra bien répondre aux besoins des personnes aînées pour assurer un vieillissement actif. Et rien de moins que plus important, en fait, que le vieillissement actif pour la FADOC, qui est le réseau FADOC, en fait, de la Fédération de l'âge d'or du Québec. Et j'accueille Mme Brigitte Roussy, conseillère en communication et affaires publiques au réseau FADOC. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je le disais d'entrée de jeu, personnes âgées, c'est souvent associé, en fait, aux gens de 65 ans et plus. Il y a comme un stade important qui arrive à 65 ans, souvent associé à la retraite, souvent associé à différents besoins, différents changements dans la vie aussi quotidienne qui arrivent. Mais en fait, la FADOC représente beaucoup plus que les gens de 65 ans et plus.
Bien, absolument. Je dirais que une des missions fondamentales du réseau FADOC, c'est certainement de surveiller, en tout cas, les intérêts de l'aîné vulnérable. Donc, quand on parle de l'aîné vulnérable, on parle de celui qui est beaucoup plus vieux, qui doit recevoir des services et malheureusement, aujourd'hui, il a de la difficulté à en recevoir. Par contre, effectivement, le membership est beaucoup plus vaste que ça. On commence à accueillir des gens chez nous à partir de 50 ans. Mais là, on le disait tantôt en discussion, c'est qu'à 50 ans, on ne peut pas se voir comme un aîné. Donc là, notre sémantique doit quand même s'ajuster, puis c'est vrai aussi. Sauf que les gens sont attirés par le réseau FADOC dès cet âge-là, parce qu'on a des rabais. Souvent, effectivement, c'est pour économiser d'abord. Mm-hmm. Mais moi, je me dis toujours que la personne de 50 ans commence par contre à avoir certains soucis qu'une personne de 22 ans n'a pas. Hein, par exemple, si on n'a pas de médecin de famille à 22 ans, je ne pense pas que ce soit la priorité. À 50, ça commence à être un petit peu plus important. Même chose, si on commence à penser à notre retraite à 50 ans, on n'a pas le choix, même il commence à être tard. Mm-hmm. C'est important là, de suivre ce qui se fait par rapport à ça. Puis c'est pas très joyeux. Donc, oui, il y a tous les pensionnés de l'État, mais rappelons qu'il y a une personne sur deux qui a un fonds de pension. On sait que l'épargne individuelle ne sera pas assez. Donc ça fait partie quand même de nos sujets qui sont vraiment prioritaires. Et on nous interpelle là-dessus. On a la chance d'être un gros mouvement avec plus de 425 000 membres. Donc effectivement, on est interpellés. Est-ce qu'on est écoutés? Bien là, c'est une autre histoire.
c'est toujours difficile à dire, en fait. 425 000 membres au Québec, donc ça c'est regroupé. Il y a aussi 800 clubs d'âge d'or, 16 bureaux régionaux. Donc, vous êtes vraiment, en fait... partout. On ne peut pas ne pas vous connaître.
On peut pas ne pas nous connaître, puis je dirais que la structure du réseau nous sert bien. Ça veut dire qu'au départ, la mission première était de briser l'isolement chez les aînés, ce qui est encore tout à fait d'actualité parce que, oui, il y a les résidences pour aînés qui poussent comme des champignons. Il y a, bon, malheureusement, certains aînés qui devront être hébergés en institutions, CHSLD et autres, mais la plupart, quand même, des aînés habitent à domicile le plus longtemps possible. Une grosse proportion, là, plus de 75% des aînés vont toujours vivre chez eux.
Oui, c'est notamment 50% des gens de 70 ans et plus qui vivent encore à domicile. Donc, c'est des besoins différents de soutien à domicile, en fait, qui vont entrer en ligne de compte à ce moment-là.
Bien, absolument. Si on parle simplement des cas d'isolement, parce que c'est comme des facteurs sociaux en quelque sorte, bien, la personne qui peut être près de son club FADOC, bien, directement sur le terrain, va participer à des activités, évidemment, là, selon son état de santé, mais il y a quand même un lien là qui n'est pas défait avec la communauté. Donc, et ça, c'est présent partout au Québec. Donc, c'est sûr que c'est très aidant pour les aînés. Ce que ça peut faire aussi, c'est de savoir que cette personne-là, justement, pour maintenir son autonomie le plus longtemps possible, aurait besoin de services, aurait droit à des services. Donc, ça allume, ça met une pression un petit peu sur l'état de l'aîné. Et on le dit toujours, hein, il vaut mieux prévenir que guérir. Puis c'est ce qui se passe avec les aînés puis avec leur autonomie. Là, il vaut mieux être là avant la perte d'autonomie plus ou moins grande. Là. Donc, il vaut mieux être en mesure de réagir. Puis là, on est comme un petit peu les yeux, finalement, là, le réseau FADOC, comme on est partout.
Justement, donc, il y a toujours cette idée de briser l'isolement chez les personnes aînées. Il y a tout de même plusieurs thèmes importants que vous défendez au niveau provincial, donc qui regroupent aussi tous les bureaux régionaux. On parle, entre autres, de la question du revenu.
Mm-hmm.
qui est très présente, les questions des régimes de retraite,
mm-hmm.
qui est très, très présente aussi, le logement. Quels sont, en ce moment, quels sont les dossiers chauds?
Bien, vous venez de les nommer, puis en plus, ces trois dossiers-là sont interreliés. Ça veut dire que quand on parle de revenus, les moyennes de revenus annuels pour les aînés, on dit maintenant qu'on fait face à un appauvrissement galopant chez les aînés. À titre d'exemple, une femme seule de plus de 65 ans gagne autour de 18 000 par année. C'est pas grand-chose quand on sait qu'on doit assumer un loyer, plus souvent qu'autrement seul, qu'on doit de plus en plus payer pour ses services. Et on note justement un désengagement important de l'État justement par rapport aux services qui sont donnés aux aînés. Donc, ce qu'il y a à faire par rapport aux revenus, c'est nettement insuffisant, ça c'est certain. Il y a quand même des endroits où on peut améliorer la situation, mais évidemment qui dépendent des gouvernements. On milite effectivement pour que la régie des rentes augmente. Bon, bien, les cotisations d'une part pour éventuellement arriver à un taux de remplacement. À l'heure actuelle, il est de 25%. Mais quelque chose d'un petit peu plus élevé. Puis d'un autre côté, on est en train de voir que les régimes de retraite, les fonds de pension traditionnels des employeurs sont de moins en moins offerts, alors qu'ils étaient le meilleur rempart contre la pauvreté des aînés. Et l'épargne individuelle, finalement, ça reste très difficile dans un contexte où les salaires, d'une part, n'ont pas tellement augmenté depuis 20-30 ans. Donc, dans le fond, on s'entend généralement là-dessus, alors que tout le reste a considérablement augmenté. Donc, il y a une certaine vision que les gouvernements, une vision autre que les gouvernements doivent adopter parce qu'on s'en va vers une génération d'aînés qui seront de plus en plus pauvres.
De plus en plus pauvres, alors qu'on souhaite un maintien à domicile. Il y a des frais souvent qui sont associés à ce souhait-là d'habiter à la maison encore. Notamment le coût moyen d'une maison est de 1 350 $ par mois. Mm-hmm. Donc, ne serait-ce que le salaire moyen d'un aîné qui est entre 18 000 mm-hmm. et 23 000, mm-hmm. on voit que c'est pas suffisant. Comment est-ce que vous faites, en fait, justement, pour vous faire entendre? Est-ce que c'est par moyen de mobilisation? Êtes-vous présent dans les regroupements politiques? Comment est-ce que vous faites entendre ces revendications?
Je vous dirais qu'à l'heure de l'austérité, on n'a pas le choix de nommer ce mot-là. Certainement, en ce qui concerne les aînés, c'est très difficile de se faire entendre. C'est sûr qu'on est entendu souvent en commission parlementaire pour aller donner notre opinion, mais je vous dirais qu'on coupe les coins là, on coupe les coins ronds où on a beaucoup de difficultés à ce qu'on soit entendu. La plupart des dossiers aînés de la dernière année, si vous voulez, passent par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il n'y a aucune avancée par rapport à ça, bien au contraire. Nous, on note ce désengagement de l'État. Ce qu'on dit, dans le fond, c'est par rapport à la prise en charge de la perte d'autonomie des aînés. Alors, on voit que de plus en plus, les aînés devront payer. Prenons l'exemple du frais accessoire. Ça veut dire qu'une goutte pour les yeux qui coûte normalement 1 $ pourra coûter à l'aîné 200 $ et c'est maintenant permis par la loi, alors que c'est complètement illégal, d'une part du côté des propres lois du Québec, du côté fédéral également. Si on pense aux soins à domicile, là, je me réfère simplement à un reportage de Radio-Canada dernièrement. Sur le terrain, on voit qu'il y a des coupes importantes d'argent, donc forcément, les gens sont touchés, bien que le ministre dise, lui, qu'il n'y a pas de coupe. Alors, bon, chercher l'erreur, mais le terrain quand même dit que ça coûte plus cher. C'est correct aussi d'avoir des entreprises d'économie
sociale,
mais n'empêche que ça coûte quand même alors que le service est censé quand même être fourni aux aînés de façon gratuite et se l'est de moins en moins dans bien des cas. Donc, c'est tous des sujets qui sont liés et interreliés pour effectivement, comme vous le disiez tantôt, se maintenir à domicile. Parce que l'option ensuite d'une résidence privée pour aînés, c'est généralement beaucoup trop cher pour ces gens-là.
Mm-hmm. Brigitte Roussy, on vient de nommer certains enjeux auxquels on aura l'occasion justement d'approfondir dans les prochains mois lorsque la chronique va revenir. Par contre, je voulais aborder, il y a quand même quelques enjeux qui sont propres à certaines régions au Québec, où est-ce que les bureaux régionaux vont particulièrement travailler sur ces dossiers-là? Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns?
Mais la beauté de la chose, c'est qu'en fait, oui, nous, on va traiter généralement les problèmes ou problématiques d'un niveau national, mais ce qui fait notre force d'un autre côté, c'est aussi d'avoir tous ces bureaux régionaux-là qui sont capables aussi d'amener leurs couleurs et de faire leurs propres revendications, qui souvent vont prendre une allure complètement différente dans une région donnée. Donc, c'est bien de pouvoir documenter, c'est ce qu'on trouve très intéressant, les impacts, par exemple, de telle ou telle politique, mais dans un milieu X, je vais prendre par exemple le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou dans un milieu qui n'est pas tout à fait urbain, semi-urbain. Donc, ça nous permet surtout, en tout cas, d'avoir des lectures et de prendre des photos un peu des instantanées des politiques puis des conséquences sur les aînés dans chacun des coins. Et aussi, les bureaux régionaux finissent par très, très bien aussi connaître leur population et de s'adapter aussi aux besoins. Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu un site Internet pour les travailleurs d'expérience, donc tous des travailleurs de 50 ans et plus. Donc, il y a des gens qui vont s'inscrire comme sur n'importe quel site de recherche d'emploi. Il y a des entreprises qui sont sollicitées. Bref, on fait une espèce de match, mix and match. Mm-hmm. Et c'est ce genre de programme qu'on pourra avoir maintenant à l'échelle nationale. Donc, des initiatives, effectivement, qui sont prises pour refléter une certaine réalité régionale, mais aussi ensuite peuvent devenir provinciales.
Oui, et donc servir aux autres bureaux et à tous les membres. En terminant, si vous aviez un message à passer sur ce qu'il faut faire pour assurer un vieillissement actif, dans notre population, parce qu'on est tous, peu importe l'âge, je crois, dans le déni de notre âge. Mais s'il y a quelque chose auquel on ne peut se soustraire, c'est le temps qui passe.
Exactement.
On vieillit. Ça serait quoi votre message?
Mais moi, ce que je dirais, puis ça me permet de dire un mot sur nos loisirs, qui sont effectivement organisés par les trois paliers d'instance, c'est donc de dire que nous, en tout cas, chaque semaine, on fait bouger 70 000 personnes. Au minimum, ça c'est vraiment, là, on a calculé ça de façon minimale, mais ce qu'on se dit, ce qui est important là-dedans, c'est que oui, ce sont les membres du réseau FADOC qui bougent ou qui s'intéressent à un million de choses qui leur sont proposées par l'entremise de notre réseau, mais il y a aussi un paquet de bénévoles qui s'occupent de faire bouger les autres, donc les voix, elles sont multiples. Et puis je dirais aussi que être membre du réseau FADOC, même si on est plus jeune, on a vraiment du travail à faire pour poser la question du vieillissement de la population, effectivement, qu'on veut peut-être le mieux possible. Et souvent aussi, ça se joue sur le terrain politique.
Merci beaucoup. Brigitte Roussy, vous êtes conseillère communication et affaires publiques du Réseau FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. Merci d'avoir été avec nous
aujourd'hui. Merci beaucoup.